Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Avez-vous déjà pensé au mot « mouillé » en cuisine ? On pense tout de suite bien sûr aux mouillettes, qui consistent, on le sait depuis qu'on est enfant, à tremper une fine tartine de baguette dans un œuf à la coque. Mais en dehors de ce geste bien de chez nous, y a-t-il d'autres occurrences culinaires de ce verbe ? Nous avons invité deux personnes ce midi pour discuter sans grand esprit de sérieux autour de ce mot qui les réunit, car finalement, de l'usage de l'eau en cuisine à l'art de tremper, il n'y a qu'une baguette.
Herr Reichsminister, die Eier sind fertig. Darf ich sie servieren, solange sie warm sind?
Ah, ce sont des œufs d'Autriche. Ils sont frais de ce matin, je crois que vous allez apprécier.
Sûrement, mais vite, parce que nous sommes un peu pressés.
Ja, schnell. 3, 4, 5. L'œuf, c'est la pomme de la poule.
Mais excusez-moi de poser cette question, Reichsminister, mais pour les mouillettes, comment fait-on ?
C'est tout bête. On prend une paquette entière, on la peur, bien, et on la trompe. Ja,
Rettin. Oh, mince, ma mouillette est tombée, je vais la ramasser. Excusez-moi.
C'est mais ça, finalement.
Avec vous, Maréchal, on ne peut pas faire autrement que d'aimer.
Un extrait de Papy fait de la résistance, film de Jean-Marie Poiret qui date de 1983 avec la voix de l'inénarrable Jacques Villeray. Vous avez compris, si vous n'avez pas d'humour, passez votre chemin ou coupez le son, car comme le dit très bien notre réalisatrice préférée du jour, Louise André, toi et tes idées d'émission farfelues, point de suspension. Bonjour Patrice Roy.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors vous êtes l'auteur de L'Art de Tremper, un petit livre paru chez Créafis Éditions. C'est le premier livre en français sur cet art bien particulier que vous décrivez avec humour. Et je précise que vous êtes un ancien architecte converti dans la restauration. À vos côtés se trouve Stéphane Lagorce, bonjour et bienvenue.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes l'auteur du micro précis de l'eau en cuisine et en pâtisserie paru chez Homo Habilis que vous dirigez. Vous poursuivez avec ce petit livre ce que vous appelez votre joujou tech d'ouvrages ultra condensés et précis, autrement dit votre collection de micro précis, puisqu'il en existe un sur le sel, un autre par exemple sur le gluten. Et là vous le faites avec l'eau, cet ingrédient dites-vous fondamental et très mouillé en cuisine et en pâtisserie. Je précise vous concernant que vous êtes un ancien chef de cuisine reconverti dans l'édition de livres de cuisine. Il y a un premier point commun à vos deux livres, me semble-t-il, c'est que ce sont des continents inexplorés. Je le disais, vous avez écrit, Patrice Roy, le premier livre sur cet art de tremper, cet art bien particulier, et il n'existe pas, Stéphane Lagorce, à ma connaissance, en tout cas, de livre sur l'eau, alors même que c'est un ingrédient incontournable de la cuisine, tout comme l'art de tremper est unique, Patrice Roy.
Tout à fait. Et c'était, en fait, ce livre a été écrit suite à un petit déjeuner avec un couple américano-japonais qui a demandé si nous allions tremper, parce que nous étions les premiers Français à prendre un petit déjeuner avec eux. C'était quand même depuis 10 ans dans l'Hexagone. Alors on a trempé et à la fin, il m'a dit en anglais, « Is there any book about dipping ? Est-ce qu'il existe un livre sur le trempage ?» Et j'ai répondu que non, et j'ai décidé d'en écrire un.
Donc pour combler un vide, un manque. Et vous, Stéphane Lagorce ?
C'est-à-dire que l'eau, finalement, est l'ingrédient le plus incontournable, enfin même en quantité, dans tous les ingrédients. Et il n'y a pas une ligne qui lui est consacrée. Donc je trouvais ça tout à fait surprenant. Et lors de mon apprentissage, il y a fort longtemps, je remarquais toujours les chefs soit ajouter de l'eau, soit en enlever, soit et sans qu'il n'y ait jamais aucune explication. Et c'est ça qui m'a rendu curieux d'explorer un peu cet ingrédient à la fois indispensable et complètement méconnu.
En même temps, si je ne m'abuse, et sans vouloir aller tout de suite dans la provocation, Patrice Roy, on ne trempe pas dans de l'eau pour déguster ici ?
Quand on est un très jeune enfant, oui. Je dirais que c'est par là que commence le trempage. Et je me demande, c'est une idée qui m'est venue une fois le livre terminé, publié, et après les réceptions des premières réactions de lecteurs, je me suis dit que finalement, le trempage était issu de l'enfance et que la plupart des gens qui refusent le trempage sont peut-être ceux qui refusent leur part d'enfant. Donc, c'est ce qui fascine, c'est disons l'alchimie des goûts. On a le goût de l'aliment plus le goût du liquide chaud qui en crée un troisième. Généralement, inattendu. Et surtout, surtout, moi j'admire ce que j'appelle la surprise de fin de bol, c'est-à-dire que ce chaînon manquant entre le liquide et le solide, que l'on mâchera un petit peu à la façon d'une huître, et qui là aussi est totalement inattendu. Je veux dire, chaque matin, je me demande quel goût ça va avoir, parce que voilà.
Vous parlez de l'enfance, il y a un grand écrivain qui en a très bien parlé. On l'écoute.
Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi quand, un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel.
Lecture de cet extrait de Marcel Proust par Jean Taupart, qui date de 1968. Assez belle lecture, je dois le dire, pour retrouver cette enfance.
On a du mal à reprendre gorge.
Absolument.
Mais en fait, dans Proust, on se rend compte qu'il trempe à l'aide d'une cuillère, donc il triche un petit peu.
Oui, il faut vraiment tenir l'aliment.
C'est pas le fondamental. Ouais.
Il faut tenir l'aliment avec ses doigts. En même temps, en cuisine, Stéphane Lagorce, il ne faut pas abuser du trempage. On peut nettoyer, mais vous dites qu'il y a une règle, c'est qu'on ne laisse rien tremper dans l'eau, sinon ça se ramollit complètement.
Ou alors, on sait qu'on décide vraiment de le faire à dessein. Je veux juste rebondir sur ce que disait Patrice tout à l'heure sur le troisième goût. Oui. En fait, parce que ça, il y a la dimension onirique de la chose. Et puis derrière, il y a des phénomènes qui sont intéressants à voir. C'est qu'en fait, quand on fait tremper quelque chose, on dilue parce qu'on met de l'eau dans ce qui n'en avait pas ou peu. Et ça change quelque chose. Alors c'est un terme un peu barbare, je m'en excuse. Ça s'appelle la mobilité des composés d'arômes qui sont comme un petit peu séquestrés dans les aliments secs, vous voyez, et qui sont emprisonnés par l'amidon, enfin tout ce qu'on voudra. Et dès qu'on met de l'eau, forcément, ça dilue la chose et les composés d'arômes deviennent plus mobiles et comme par hasard, on les sent mieux. Il y a un nouveau goût qui se crée. Et c'est ça la troisième saveur dont vous parliez, elle a une petite explication.
Et en même temps, vous le dites aussi, Patrice Roy, amollir les aliments, ça peut être important pour des personnes qui ont des problèmes de dentition.
Louis XIV.
Pas seulement Louis XIV.
Non, mais Louis XIV adorait tremper des parets gabéa, qui sont des petits macarons qui sont fabriqués par la maison Adam à Saint-Jean-de-Luz, et il s'en faisait livrer régulièrement. Il les avait découverts lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz lui-même. Et puis, quand il n'a plus eu de dents, enfin, la légende dit que son chef lui a inventé le lièvre à la royale, puisque ça continue à être du gibier, mais facilement masticable.
Absolument. Oui. Et en même temps, la salade, Stéphane Lagorce, la salade, quand elle est molle, on la met dans l'eau et elle retrouve son croquant.
Alors c'est pour ça, il y a toujours des choses qui sont un peu contre-intuitives comme ça, parce que là, quand la salade est molle, c'est qu'elle manque d'eau. On va pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, quand vous le remettez à côté, ben forcément, ces petites cellules là se regonflent et reprennent leur structure d'origine. Et donc, c'est comme ça c'est comme les radis. Si les radis sont un petit peu mous, on les met dans l'eau glacée. Vous savez, ils redeviennent extrêmement croquants comme ça parce que forcément, l'eau se déplace beaucoup. Soit elle sort des aliments, soit elle va dans les aliments. Et selon les circonstances, ben là, en l'occurrence, quand on mettait une feuille de salade ramollie, on radis ramolli dans l'eau, mais l'eau va vers l'aliment et du coup, le rend plus croquant.
Oui, le travail de Stéphane est fascinant parce que il a nommé des gestes que j'accomplis machinalement ou parce qu'on me les a appris, mais je n'en connaissais pas la raison technique. Mais concernant la salade, moi, je croyais qu'il fallait la mettre dans l'eau un peu tiédie. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que
alors là-dessus, enfin toujours pareil. Enfin, il y a des plages de température plus ou moins critiques là-dedans, mais dans la plage des températures tièdes, ça va pas vraiment être
ça
tout à fait changer beaucoup de choses.
Alors, à quoi sert l'eau en cuisine, Stéphane Lagorce? Vous dites que c'est un composant indispensable, qu'on la retrouve partout, parfois beaucoup, dans les végétaux. On sait que le trempage est une étape importante pour les légumineuses dans l'eau. Mais vous dites l'eau détermine la texture.
Et oui, c'est pas forcément très intuitif, mais souvent on associe les textures moelleuses, vous voyez, pour prendre un exemple concret pour nos auditeurs, par exemple des gâteaux, des madeleines, puisqu'on en parle souvent, on l'associe ça, ou la brioche, on associe ça à la quantité de beurre qu'on va mettre dedans. Plus il y a de beurre, plus ça va être riche, plus ça va être moelleux. En fait, non. La réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est la façon dont on a réussi à garder de l'eau dans la madeleine ou dans la brioche pendant la cuisson. Donc ça, il y a des trucs, on va dire, en cuisine, qu'on arrive dont je parle un petit peu dans le bouquin, là.
Et vous avez des micro précis, puis vous avez des grands précis.
Oui,
vous avez un grand précis, des cuissons au poêle. Donc la cuisson, ça vous connaît.
Et donc, du coup, comment on arrive à mener des cuissons pour garder l'eau dans le produit? Donc, il y a un certain nombre de recettes que vous venez de citer, effectivement, dont la texture est vraiment beaucoup plus liée à l'eau qu'aux lipides, qu'aux beurres, et ça, les livres, malheureusement, ne survolent cet aspect des choses à très très haute altitude, et bon, voilà.
Votre micro précis précise précisément de retomber sur terre pour pouvoir expliquer.
Oui, c'est ça, voilà. Et puis, en fait, si vous voulez, en deux mots, enfin, l'eau, le problème de l'eau, c'est que c'est un ingrédient subi. C'est-à-dire qu'en fait, on l'utilise sans le savoir, quoi. Quand on cuit des pâtes, on utilise de l'eau, forcément, mais qu'est-ce que fait cette eau? Elle va dans les pâtes ou elle en sort? Il y a une partie qui sort en vapeur, donc avec un certain nombre de composés d'arômes, et qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ben c'est là qu'on peut commencer à cuisiner finement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire à réguler tout ça. Est-ce qu'on veut qu'on ait beaucoup d'eau qui aille dans les pâtes ou qui beaucoup s'évapore? Que sais-je? En tout cas, si on n'a pas conscience de ça, on cuisine un peu dans le noir, quoi.
Oui, et puis la grande difficulté, c'est que il faut jouer de l'équilibre entre ce qui devient très sec et ce qui justement devient très mou alors qu'on ne le souhaite pas. Et pour cela, vous dites qu'il existe des fixateurs d'eau.
Oui.
L'œuf et l'amidon.
Ah ben voilà, donc c'est ce qu'on les appelle dans le jargon terrible, des séquestres de l'eau. En fait, ils ont la capacité d'aller, comme s'ils avaient des petits bras, si vous voulez, et même les protéines aussi, et en fait, attrapent l'eau et fait en sorte qu'elle ne bouge plus, quoi. Elle reste où elle est, quoi.
C'est pour ça qu'on met toujours un petit peu de farine dans une terrine.
Alors voilà, typiquement.
Par exemple.
Non, mais c'est un excellent exemple. Quand on fait
que vous donnez, hein.
Merci de me citer. Quand on fait cuire une terrine, il y a du jus qui sort. Et si on veut que ce jus reste dans la terrine, on met un peu de farine parce que ça l'empêche, les grains d'amidon gonflent et tout ça. Et ça donne plus de moelleux, encore une fois. Parce que le moelleux, la texture moelleuse est très, très, enfin, dans beaucoup de cas associée à l'eau, beaucoup plus qu'aux lipides. Et donc, ça donne, ça permet déjà d'utiliser moins de lipides dans les recettes, c'est intéressant. Et puis, voilà, c'est une autre façon de considérer cet ingrédient un petit peu comme un ingrédient qui rend fade, qui affadit. Vous voyez, l'eau, c'est souvent un petit peu vu comme ça. Or, c'est le contraire, quoi. Tout à l'heure, on en parlait des sauces avec Patrice, là. Ouais. Et souvent, le fait de diluer un peu les sauces fait que les sauces ont plus de goût. Ce qui est complètement contre-intuitif, quoi.
Oui, ce que je racontais, c'est que pour une sauce, quand j'ai une sauce pour les pâtes, j'utilise un peu de l'eau de cuisson quand les pâtes sont mises à gonfler, celle qui est le plus chargée en amidon. Enfin, et ça peut être une louche, hein, carrément. Ça dépend combien de personnes qui y sont attendues. Et j'inverse dans la sauce qui permet de la rendre davantage à la fois fluide et avec du corps.
Et vous nous direz quelle est la différence entre le sauçage et le trempage.
Ah, c'est très simple.
Ah, oui.
Quand on sauce, on a pied. Quand on trempe, on risque de sombrer.
Et parmi les 15 recettes du livre de Stéphane Lagorce, j'en ai cherché une où l'eau mouille au point de tremper et où on perd pied. J'ai trouvé les maquereaux à la nage.
Oui. Oui, alors là, effectivement, on les rend à leur élément, en quelque sorte, où finalement, lors de la cuisson, alors là, on parle de ce qu'on appelle un peu l'efflux, dans quel sens va l'eau? Donc, pendant qu'on fait cuire les maquereaux, l'eau qui est dans le maquereau va vers la cuisson, donc il se dessèche, même si on le voit pas, mais si on les laisse tremper dans la nage, l'eau qui était partie revient au bercail, j'allais dire, et redonne au maquereau, à la nage, sa saveur tout à fait unique. C'est pour ça qu'on recommande toujours un petit temps il y a la cuisson, puis il y a le temps de trempage, là, pour reprendre vraiment les termes de Patrice, là, qui fait qu'on a vraiment la texture attendue.
Alors, avant de passer au trempage de Patrice Roy, il y a quelques petites règles que vous donnez dans votre ouvrage, Stéphane Lagorce. J'aimerais en donner trois. Enfin, vous posez la question, par exemple, pourquoi il faut démouler un gâteau dès qu'on le sort du four?
Ah oui. Alors, parce que, en fait, dès que le gâteau sort du four, il est rempli, enfin ça ne se voit pas, mais il est rempli de vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau ne voudra faire qu'une chose, c'est se condenser. Donc si elle se condense dans le gâteau, ça donne un gâteau qui qui a une texture qui est assez désagréable parce que l'eau n'est plus fixée, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que quand on le sort du moule, l'eau, enfin la vapeur d'eau, a la chance de pouvoir percoler à travers le gâteau et aller où elle veut, en tout cas de ne pas rester dans la mie.
Deuxième règle, pourquoi il faut faire attention à la cuisson vapeur et à la distance entre le panier de cuisson et la surface de l'eau bouillante?
Alors, j'essaie de faire de très rapidement. Près de l'eau bouillante, on a de la vapeur vraie qui est à 100 degrés et qui se condense sur les produits mis à cuire. C'est-à-dire que c'est la cuisson la plus violente qui existe en cuisine, plus fort que le snacking, plus fort que la plancha, plus fort que ce qu'on voudra. Et dès qu'on s'élève au-dessus de l'eau bouillante, on est dans ce qu'on appelle un aérosol. C'est un mélange d'eau et d'air qui, lui, provoque ce qu'on appelle des cuissons douces. La cuisson violente est en bas de la casserole et la cuisson d'eau, c'est en haut.
Et enfin, comment réussir un plat mijoté?
Alors, il faut le faire plutôt à niveau constant, c'est-à-dire que la quantité de liquide qu'on avait au début doit rester constant au fur et à mesure de la cuisson, ne pas d'évaporation. On essaie de ne pas mélanger l'extraction aromatique, la cuisson et l'évaporation, c'est deux choses différentes.
Allez, il est 12h16 sur France Culture, bon vous appétit. Écoutez les bonnes choses, les bonnes choses qui parlent de ce qui est mouillé, de cet art de tremper et de l'eau en cuisine. Pour passer à notre deuxième temps de l'émission, je vous propose, Patrice Roy, de nous lire cette entrée de votre chef Marc Menot dans votre ouvrage. Je vais vous la donner votre livre parce que vous ne l'avez pas. Vous l'avez. Donc cette entrée de Marc Menot à Vézelay, recette que vous nous avez donnée pour notre site internet. Recette d'une trempée au vin?
Oui, je l'ai.
On vous écoute.
Oui, je reconnais que Marc a été formidable dans son appui. Et puis Marc, c'était un génie de la cuisson. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu cuisiner à la seconde près et au degré près ses plats. Il était fabuleux à voir. Et donc, il m'a offert...
Un soir d'été.
Voilà.
Sous notre vinet.
Alors, un soir d'été sous notre vinet, assemblons une bouteille de vin rouge de notre treille, un litre de bonne eau de source, un demi-clou de girofle tranché dans la longueur, 100 grammes de sucre et 3 cuillères de miel. Laissons reposer 30 minutes, invitons 3 amis, sortons 4 bols, versons, découpons des cubes dans les desserts du pain de la veille et trempons-les dans ce doux mélange. Enfant, j'ai goûté mon premier alcool.
La chose la plus révoltante pour l'Allemande que je suis, que dis-je, le crime gastronomique le plus grave, le Français le commet généralement au petit déjeuner. Regardez, il commence par couper un bon morceau de baguette bien fraîche, bien odorante, à la croûte dorée et finement craquante. Il le coupe dans le sens de la longueur, découvrant ainsi une mie moelleuse sur laquelle il applique une fine couche de beurre, puis une couche épaisse de confiture, voilà. Maintenant, il verse dans un bol ou dans une tasse du bon café fumant, peut-être en l'agrémentant d'un nuage de lait. Et là, il prend sa délicieuse tartine et il la met dans le café. Vous avez bien entendu, dans le café. Il trempe sa tartine dans le café. En gros, il la fiche en l'air.
Extrait d'une mini-série pour Arte, carambolage sur ces différences entre les Français et les Allemands. Alors, Patrice, ah, la mouillette, c'est français? C'est uniquement français?
Alors, la mouillette, c'est français, mais ce n'est pas du trempage. Sinon, ça s'appellerait des trempettes, vous vous en doutez.
Absolument.
Mais le trempage a différents aspects. Pour moi, le trempage qui relève presque de l'absurde ou du sublime, c'est la soupe à l'ail. C'est-à-dire, dans la soupe à l'ail, c'est le liquide qui est trempé dans le solide. C'est-à-dire qu'on a pris une tartine de pain qu'on a grillée, qu'on a frottée d'ail, on a mis de l'emmental râpé par-dessus. On a fait bouillir de l'eau avec énormément de gousses d'ail et on verse les gousses d'ail et l'eau bouillante sur le pain qui était placé au fond d'une assiette creuse et on coiffe d'une autre assiette creuse et on laisse infuser pendant... Vous connaissez bien sûr hein, Stéphane. Ah, et on laisse infuser pendant une minute.
Mais pas tout non,
et alors, c'est absolument formidable. Ça évite le rince-cochon. On a la tête beaucoup plus claire après. C'est très, très utile.
Est-ce que c'est une des recettes de votre grand-mère Jeanne, cuisinière cordon bleu, qui vous a initié aux délices et de la gastronomie du trempage?
Non, Jeanne était la cuisinière de ma grand-mère. Mais elle était, vous savez, j'étais vraiment enfant. Ce problème ne se posait pas, mais je trempais avec elle. C'est elle qui m'a initié à ça, c'est bien évident. Là, c'est une recette que m'avait donnée quelqu'un qui est complètement oublié maintenant, qui s'appelait Annabella, qui était une actrice des années 30 et qu'elle avait apprise au Pays Basque. Et donc, pour moi, c'est une recette basque.
Voilà. Ce que nous dit aussi cet extrait qu'on vient d'entendre de la mini-série Carambolage, c'est que c'est vrai que ce que vous dites, d'ailleurs, ça concerne davantage les collations que les repas, le fait de tremper. En gros, au petit déjeuner et au goûter,
absolument,
on trempe.
Oui, oui. Et ce sont quand même des très très bons moments de la journée, il faut le savoir.
Et des moments d'enfance, beaucoup.
Oui, oui, exactement. Et c'est, moi de toute façon, je me rends compte que j'adore manger. Et même, nous avons fait une édition originale qui comporte un dessin qui est comestible. Donc on peut avoir le plaisir de manger carrément le livre, c'est possible.
Est-ce que vous trempez, Stéphane Lagorce ?
Ah, volontiers, mais justement, je pensais en fait à quelques recettes françaises où vraiment le trempage est, j'allais dire, un passage obligé, quoi. Je pensais à la toute simple soupe de poisson, où finalement, on n'imagine pas la soupe de poisson sans ces petites barques de
ces croûtons
de pain grillé avec peut-être quelque chose dessus là, et du coup qui viennent à la fois éponger la soupe et puis en fait lui donner une réalité, quoi. Comment dirais-je, on passe du liquide qui est toujours un peu abstrait à quelque chose qui devient concret, quoi. Et je trouve que là, il y a une concomitance de du geste culinaire et puis du symbolique là dans cet aspect
tout à fait. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est qu'après la publication du livre, il y a des lectrices, surtout des lectrices d'ailleurs, qui m'ont envoyé des photos de leurs trempages matinaux. Ah. Il y en a une qui trempe des toasts à l'avocat, donc dans son café. Et la photo est plutôt bien, ça rend bien.
Des toasts à l'avocat dans du café.
Voilà.
Bon, mais enfin, est-ce qu'on peut tremper dans tout, à part l'eau, vous avez dit.
Ouais, je dirais qu'on peut tremper dans tout. Parfois c'est pas terrible. Parfois c'est une erreur. Il faut pas faire ça.
Vous avez apporté un certain nombre.
Oui.
Voilà, il y a ceux qu'on trempe dans quelque chose, dans du liquide, hein, en général.
Voilà.
Et donc là, vous nous avez apporté pour faire un petit atelier trempage.
Alors, c'est une spécialité bourguignonne qui s'appelle la gougère. Et c'est, pour moi, la très très bonne pâtisserie d'Avallon qui s'appelle l'Atelier du Milord, qui m'a fait des petites gougères qui sont débouchées. Alors, on va pouvoir, si vous voulez, essayer d'en tremper.
Alors, on ouvre le sachet de gougères. Vous aviez aussi apporté des madeleines.
Si on trempe collectivement, après, il y a du sucre, du salé.
Il y aura des volontaires.
Et donc,
on peut la tremper dans quoi, gougère ?
Alors moi, je reconnais que j'ai tendance à la tremper dans le vin blanc. C'est pas très raisonnable, mais là,
avec modération, ça va.
Voilà. Mais ça va être très sérieux. On va faire ça dans du thé, tout simplement,
dans
un thé russe. Alors, je trempe ma gougère.
Vous vous rendez compte par rapport au verre. Hein.
Elle rentre juste, c'est calibré. mais vous vous rendez compte que la gougère est totalement insubmersible. Elle est un peu comme le canot de sauvetage.
Ouais.
Donc ça ne marche pas.
La tremper, donc vous la coupez.
Il faut la rompre en deux, et à ce moment-là, vous pouvez la tremper, et la pâte à choux intérieure va venir absorber le liquide.
Et quelle est la troisième saveur de la gougère trempée dans du thé ?
Mais il est évident que la gougère toute seule n'a pas du tout le même goût que la gougère trempée dans le thé.
C'est ce qu'on dit,
et le thé tout seul n'a pas le même goût que le thé trempé avec
l'intérêt.
La gougère.
Voilà, 1 plus 1 fait 4.
D'où l'intérêt culinaire. Petite devinette pendant que Patrice Roy mange sa gougère trempée. Petite devinette pour vous, Stéphane Lagorce. Il existe un grand classique de la pâtisserie qui nécessite un trempage dans sa recette.
Oui.
C'est quoi ?
J'imagine que vous nous parlez du baba au rhum.
Non. Un petit indice, c'est un dessert italien.
Ah, le tiramisu.
Nous avons en ligne avec nous un chef pâtissier passé chez des grandes maisons, qui est aujourd'hui pâtissier de la maison, justement, restaurant dans le quartier de Gerland, au cœur de Lyon. Nabil Barina est avec nous. Il est avec nous parce qu'il a été 2 fois champion du monde au salon Host de Milan. En 2021, il a remporté le concours du tiramisu. Figurez-vous. En 2024, il a eu le titre de champion du monde pâtisserie, chocolaterie, glacerie. Bonjour, Nabil Barina.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous en ligne. Alors, l'épreuve de 2021 pour laquelle vous avez remporté le titre de meilleur pâtissier de tiramisu consistait à réaliser un tiramisu en 2 versions. Vous nous racontez un peu ?
Exactement. On avait 3 heures pour faire 2 tiramisu, un classique et un original. Donc, pour le classique, il fallait vraiment utiliser tous les codes du tiramisu, donc utiliser le café, le mascarpone, le sucre et les biscuits, les œufs, excusez-moi. Et puis, pour la version originale, innovante, c'était un peu l'expression du pâtissier en gardant les poils du tiramisu.
Et les ingrédients, on les connaît, œufs, mascarpone, cacao, café et biscuits à la cuillère. Il m'a semblé quand même, Nabil Barina, qu'une des choses les plus difficiles pour réussir le tiramisu, c'est cette étape de trempage du biscuit dans le café. Est-ce que je me trompe ?
Exactement. Pour moi, c'est ce qui définit vraiment le goût du tiramisu. Parce qu'un biscuit trop trempé, on a un dessert qui, en dégustation, ne va pas être intéressant. Pas assez trempé, ça va nous donner un aspect sec. Et en fait, le trempage permet en fait de stabiliser le café et amener une profondeur au niveau de la dégustation et l'équilibrer surtout en fait sur tout le dessert.
Quels sont les autres secrets ? Alors, vous n'allez pas nous donner le secret ultime de votre recette. Ça, c'est mystérieux. On aimerait bien, mais bon, on va vous le laisser. Mais est-ce que c'est dans le biscuit le choix du mascarpone, le choix du café ? Selon vous, c'est quoi, Nabil Barina ?
Pour moi, le choix du café est très, très important. Le choix du café, la façon dont il est fait, la manière aussi où on va tremper le biscuit. Le biscuit doit être trempé assez rapidement. Ça doit aller très, très vite, une seconde de chaque côté.
Ouais, c'est ça.
Pour que l'intérieur du biscuit reste quand même texturé. Et surtout, le tiramisu a besoin de maturation. Il a besoin de 12 heures, voire 24 heures de maturation. Et en fait, avec un biscuit bien imbibé, ça permet en fait d'avoir la crème mascarpone qui va bien en fait se marier avec le biscuit en termes de dégustation.
S'y retrouve. Eh ben, merci beaucoup, Nabil Barina. Et je précise que vous nous avez offert une recette de tiramisu qu'on met sur notre site internet à la page des bonnes choses. La durée de trempage, c'est très important, Patrice Roy.
Tant qu'on a envie, on continue.
Tant qu'on a envie, on continue avec vous aussi, Stéphane Lagorce. La durée de trempage.
Je pense que notre ami Nabil a vraiment bien expliqué la rapidité du trempage nécessaire. Et si on déborde, évidemment, tout devient...
Tout s'effrite, par capillarité, tout se ramollit.
Voilà, c'est pas bon.
Votre gougère, elle était bonne ? Vous ne l'avez pas trempée trop longtemps ?
Non, j'ai une certaine expérience maintenant.
On sent le métier, hein, ça sent le vécu. Hein.
On sent le métier. Nous allons continuer au son de Trempe ton pain Marie en version pianistique. Nous allons continuer de tremper. Nous avons compris que c'était pas dans l'eau. On va voir s'il y a du thé, du café ou autre chose autour de la table avec les gougères, les madeleines. Vous aviez apporté aussi un troisième
oui,
chose.
Oui, des punitions de poilane qui sont vraiment idéales. Ce sont des sablés sucrés qui existent en différentes céréales. En fait, ça, quand c'est du maïs, ça s'appelle pas vraiment les punitions, mais c'est la même chose.
Ne soyons pas
idéal. Idéal pour le trempage.
Absolument. Voilà. Merci Patrice Roy. L'art de tremper, manuel à l'usage des Français et des étrangers qui trempent. Vous aimeriez d'ailleurs que ce soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Immatériel, oui. Déjà commencer par le patrimoine immatériel de la France, je pense que ce serait une reconnaissance du trempage.
Ouais, paru chez Créafis, édition. Oui. Et le micro précis, Stéphane Lagorce, de l'eau en cuisine et en pâtisserie, ingrédient fondamental et très mouillé avec quelques recettes intéressantes. Pour finir, c'est paru chez votre maison d'édition Homo Habilis. Vous trouverez sur notre site franceculture.fr à la page des bonnes choses toutes les informations, les adresses, les références dont on a parlé. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Avec la petite équipe des bonnes choses, c'est Amboutata à la réalisation aujourd'hui. Louise-André, grand plaisir de la retrouver à la prise de son Anthony Thomasson. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.